Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richet, Charlie Dupiot, Catherine Donnet, Virginie Leduo et Marie Vidal, réalisée par Anne Franchini, accompagnée ce soir à la prise de son de Clément Daté. Les Italiens, exubérants et spontanés. Les Allemands, autonomes et précis. Les Japonais, délicats et discrets. Les Australiens, aventuriers et décontractés. C'est la troisième édition 2015 du guide Do You Speak Tourist qui vous le dit. Quelques années après l'embauche d'ambassadeur du sourire dans la ville de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie fait paraître depuis 3 ans un guide pratique à destination des commerçants et des hôteliers de la capitale française. Cela pourrait être comique si le constat n'était pas aussi dur de la part de nos visiteurs. Chaque année, on peut trouver au moins un édito, au moins un article dans un journal étranger qui déplore l'impolitesse des Français face aux touristes. Le dernier en date est publié dans le Daily Telegraph. Le journaliste britannique Henry Samuel y décrit la France comme le pays aux habitants les moins sympathiques, les chauffeurs de taxi les plus désagréables et les serveurs les plus agressifs. Constat alarmant et partagé par d'autres pays et parfois par les Français eux-mêmes, il faut bien le dire. À tel point que Laurent Fabius veut faire de l'accueil des touristes une priorité nationale pour les prochaines années. Un rapport publié par le Conseil de promotion du tourisme a été remis dans ce sens au ministre des Affaires étrangères au début de l'été. Car si la France reste la première destination touristique mondiale devant les États-Unis et ce depuis 30 ans, elle n'est désormais que troisième en termes de recettes générées par ce secteur et la fréquentation n'augmente plus depuis 1 an selon le magazine L'Écotouristique. Alors pourquoi nos touristes nous détestent-ils tant? Que faire pour ne pas les faire fuir et mieux encore les retenir plus longtemps en France? Saurons-nous un jour sourire à nos touristes? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Josette Sixing, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice fondatrice de Touriscopie, un journal et une plateforme en ligne de veille sociologique qui existe depuis 18 ans et qui rassemble divers travaux de recherche consacrés au tourisme et à ses pratiques. C'est donc Touriscopie. En face de vous, il y a Pierre Josse. Bonsoir monsieur.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du Guide du Routard depuis 37 ans maintenant et c'est à vous que l'on doit notamment le Guide du Routard sur Paris et d'autres guides sur la capitale. Notre troisième invité, c'est donc Philippe Solignac. Bonsoir. Et bienvenue monsieur. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, la CCI, qui est à l'origine de plusieurs initiatives pour promouvoir le secteur du tourisme, comme par exemple la campagne de sensibilisation intitulée Do You Speak Tourist et l'application Yes, I Speak Tourist en complément lancée depuis cette année tout juste. Nous reviendrons sur le contenu de ces campagnes, les réflexions, les besoins qui y ont donné lieu. Et enfin, notre dernière invitée sera avec nous au téléphone, c'est la journaliste Tamara Lui. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste franco-chinoise, vous travaillez notamment pour le journal chinois Tsingtao Daily, dont vous avez dirigé le bureau français et vous êtes actuellement en vacances en Bretagne, dans le Finistère. Comme quoi, finalement, vous ne fuyez pas forcément la France pour vos vacances.
Non.
Nous reviendrons vers vous très rapidement. Alors, cette question sur l'accueil à la française, c'est un peu un marronnier des problématiques touristiques, un sujet qui revient régulièrement au centre des discussions. Josette Sixig, vous allez jusqu'à en parler comme d'une maladie chronique à la française. La France n'a jamais su accueillir ses touristes?
Une maladie honteuse, c'est le terme que j'emploie. Bah, écoutez, ça fait 30 ans que je fais ce métier et 30 ans que régulièrement, effectivement, on déplore le mauvais accueil touristique. Des tas de formations ont été faites par les chambres de commerce, par American Express, etc. Donc le problème est quand même plus profond. Enfin, je pense qu'on va en débattre.
Oui, exactement. Le marronnier également dans les journaux étrangers, dans les plus récents parus, c'était alors en juin dernier, comme je l'ai mentionné au tout début de l'émission, dur constat, et c'est pas la première fois que ça arrive. Tamara, lui, est-ce que cette question de l'accueil français, c'est aussi un sujet qui revient souvent dans les pages du Tsingtao Daily pour lequel vous écrivez, ou dans d'autres journaux chinois? Est-ce que les mots employés sont aussi durs que ceux que j'ai rapportés au début de l'émission?
Peut-être pas de la même manière, peut-être notre journal on le traite souvent, c'est peut-être en termes de sécurité. Souvent, qu'on relate quand il y a des délinquants ou quand il y a des hôtels où les touristes chinois sont descendus et que l'hôtel a été cambriolé. Ou sinon, il y a de la violence dans la rue, par exemple, tous les touristes chinois, une fois fini le shopping avec les grands sacs de grands marques, en sortant de métro, il y a 3-4 jeunes délinquants qui sont arrachés à la main. Donc, ces genres de violence, on en parle beaucoup et ça, il y a une répercussion très vite en Chine. Tout d'un coup, tous les médias, tous les sites qui relatent le même fait pour dire qu'en France, il y a le problème de sécurité, les Chinois, les touristes ont été agressés et c'est la cible des délinquants en France.
Pierre Josse, je vous voyais réagir à ce que disait Tamara Lui sur les questions de sécurité.
Je parlerai du syndrome japonais, on n'est pas loin du syndrome chinois, c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes japonaises ont une vision romantique.
Vous voulez parler du syndrome de Paris, c'est ça ?
De Paris, voilà. Elles ont une vision extrêmement romantique de Paris, elles en rêvaient depuis qu'elles étaient bébés, et elles débarquent et en fait, elles sont confrontées à une réalité extrêmement dure. C'est-à-dire qu'effectivement, le Paris dont elles rêvaient ne correspond pas à ce qu'elles s'étaient imaginé. Elles se font escroquer, se font dépouiller. Elles sont en butte à l'arrogance de pas mal de corps de métier, de gens, etc. De gens qui sont tendus et tout. Et là, effectivement, là, il y a une grosse déception, donc un repli sur soi, un manque de confiance et une grosse déception par rapport à l'accueil parisien.
Alors, les problématiques de sécurité n'ont pas encore été beaucoup abordées dans les politiques mises en œuvre pour attirer, retenir, accueillir les touristes. Ça se centre plutôt sur des questions d'accessibilité. Nous allons revenir dans un instant sur les détails du rapport du Conseil de promotion du tourisme. Avant cela, je voudrais revenir sur les échecs répétés en mesure du tourisme, prise en faveur de l'accueil des touristes. En 2013, le président François Hollande déclare que le tourisme doit être érigé en grande cause nationale. En juin dernier, Laurent Fabius dit vouloir en faire une priorité nationale. La France n'en est pas à sa première tentative pour améliorer ses relations avec les touristes. Qu'est-ce qui ne prend pas, selon vous, Monsieur Solignac ?
Alors, je pense que la France, qui a beaucoup de richesses à proposer dans son patrimoine et a de nombreux, peut-être trop nombreux, atouts naturels sur notre territoire. Et ces atouts ont joué à double tranchant, si vous voulez. Ça nous a pénalisés. Jusqu'à présent, le tourisme ne faisait pas partie des secteurs économiques prioritaires de notre pays. Il n'a jamais fait l'objet, jusqu'à tout récemment, il n'a jamais fait l'objet d'un portage politique fort. Et dépendant souvent d'un secrétaire d'État rattaché à un ministère selon au gré des gouvernements successifs.
Vous voilà, voulez dire que les mots de priorité, c'est nouveau ?
C'est nouveau, oui. Je pense que c'est nouveau. Et c'est nouveau parce que c'est un peu dans l'âme française. Le tourisme n'était pas considéré comme un atout par les Français, mais presque comme un fléau, je dirais. Et tout ça était véhiculé par l'image du voyageur qui était finalement un peu nuisible et presque envahissant, vous voyez, dérangeant pour beaucoup de Français. Peut venir le manque de vocation dans les métiers de service qui ont souvent été considérés comme dévalorisants. Voilà, donc servir, être au service, c'était dévalorisant. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, la compétition économique, la concurrence des autres pays, nos voisins et amis. Bon, chacun essaie de grappiller une part du gâteau, enfin, et en tout cas d'en avoir une belle part. Donc, cette compétition a conduit à une prise de conscience assez récente, je dirais, par les pouvoirs publics, pour dire ben, ne vivons pas sur nos acquis. Certes, nous avons un patrimoine, nous avons la Tour Eiffel, des musées, des églises, nous avons un style de vie à la française, un art de vivre à la française qui nous est envié bien souvent et que nos visiteurs étrangers veulent retrouver en France. Mais ne vivons pas toujours sur ces acquis et considérons que voilà, tout ça nous fait dire bienvenue en France, nous sommes contents d'accueillir des touristes étrangers.
Sur cette question du tourisme vécu comme un fléau et du service mal vécu par les Français eux-mêmes, vous en avez écrit quelque chose dans un article, Josette Sixic, dans l'article que nous citions tout à l'heure, donc sur cette maladie honteuse de l'accueil.
Bon, alors d'abord, moi, je n'utiliserai pas le mot fléau. Hein. Le tourisme a été vécu comme une gêne dans certaines régions, parce qu'effectivement, il y a des régions qui ont été saturées de touristes très très vite, que ce soit Paris ou que ce soit la Côte d'Azur. Hein. Donc il faut quand même un petit peu nuancer. Par rapport à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, tous les journalistes étrangers qui déplorent mauvaise accueil. Oui, tout à l'heure sur France Info, une de vos consoeurs faisait une rubrique sur ce même thème avec une journaliste de Courrier International qui avait justement répertorié quantité d'articles dans la presse internationale, et tout c'était plutôt très favorable à la France. Hein. Donc
c'est,
je pense qu'il faut
c'est
quand
le
même,
paradoxe français.
Voilà,
c'est
il
ça.
Faut faire quand même très attention. On a l'habitude de s'auto-flageller, on s'autocritique évidemment sur le thème de l'accueil, pourquoi pas. Donc
voilà, les Français okay. assez critiqués en termes d'accueil, et pourtant mais Paris et la France restent dans les premières destinations.
Mais cela dit, je pense qu'il y a un problème effectivement en France sur le plan de l'accueil. Là aussi, alors on va peut-être aussi ensuite nuancer. Il y a l'accueil matériel, tout ce qui ressort du matériel et ce qui ressort de l'immatériel. Le service fait partie de l'immatériel. Et en fait, moi j'étais intéressée par les travaux d'un sociologue, d'un anthropologue qui s'appelle Iri Barnes, Philippe Iri Barnes, je crois, et qui disait qu'en fait on vivait dans une société qui était régie par les codes de l'honneur. Donc effectivement, celui qui se trouve dans une position de service se sent dévalorisé, d'où son arrogance pour essayer de contrecarrer cet état. Alors que dans d'autres pays, notamment les États-Unis, les relations sont régies par un code professionnel. Donc si vous êtes serveur, vous faites un boulot, point, vous le faites le mieux du monde, vous êtes payé pour ça. C'est pas ce boulot de serveur qui va vous réduire à un état de servitude, comme c'est ressenti par des... Alors après, il y a beaucoup d'autres raisons aussi, hein. Mauvaise formation approximative dans ces domaines, les langues
revenir,
qui ne sont pas bien pratiquées, le fait que ce soit des hommes et que l'homme, anthropologiquement parlant, n'a peut-être pas voué à servir la communauté par le bas, mais plutôt par le haut. Enfin, vous voyez, il y a plein d'autres raisons. Ça Alors, peut s'expliquer.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire écouter une archive INA. Nous sommes pendant la campagne nationale de l'accueil et de l'amabilité. On parlait d'un souci nouveau de l'accueil. Eh bien là, ça date de 1965. C'est un reportage diffusé dans Interactualité à 20h.
Pierre Collomb, vous étiez cet après-midi à l'hôtel Matignon, car s'est déroulée la remise des prix de la campagne 65 de l'accueil et de l'amabilité française par M. Pierre Dumas, secrétaire d'État au tourisme, et M. Marcel Achard de l'Académie française.
Cette campagne, organisée par le Commissariat général au tourisme et l'ORTF, a eu lieu pour la première fois en France l'année dernière, entre le 20 mai et le 20 septembre. Elle a comporté un certain nombre de mesures groupées sous deux rubriques: accueil des touristes étrangers et concours d'amabilité. Les touristes recevaient à la frontière un bulletin de vote en faveur de l'hôtelier ou du restaurateur le plus aimable qu'il rencontrerait.
Deux concours, donc deux gagnants, qui sont d'abord une hôtelière, Madame Maurice Sandré, propriétaire de l'Hôtel de Paris et de la Poste à Sens.
Et un pompiste, Monsieur Daniel Naturel, employé à la station Shell de Saint-Maurice-la-Souterraine, dans la Creuse. J'ai rencontré Monsieur Sandré, l'hôtelier de Sens.
Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est pour vous que l'amabilité ?
L'amabilité, c'est quelque chose qui m'est tellement agréable que je le fais sans y penser. Et je suis aujourd'hui surpris, confus, mais en même temps très fier de cette distinction qui m'échoit, à laquelle je ne pouvais soupçonner, surtout à avoir la première place, car il semble que cette première place, elle devrait être celle de tous les restaurateurs et de tous les hôteliers qui font leur devoir uniquement de bons réceptionnaires, d'hôteliers accueillants, aimables, comme tous doivent l'être et comme je l'espère, tous le seront.
Alors, c'est une archive INA sélectionnée par Charlie Dupio. On vient d'entendre un des lauréats de la campagne nationale de l'accueil et de l'amabilité qui s'est tenue en 1965. Cette question de l'accueil, c'est un chantier qui dure depuis presque 50 ans, au fond, Monsieur Solignac.
Oui, absolument. Il y a bien longtemps que tout le monde se penche comment améliorer l'accueil, comment faire en sorte que nos visiteurs étrangers aient envie de revenir. Et si je parlais tout à l'heure de fléau, c'est pas pour faire du French bashing, bien évidemment. C'est simplement pour retracer un peu l'historique. Autrefois, le touriste, il était un peu gênant parce qu'il ne parlait pas notre langue. Il ne déjeunait, prenait pas ses repas aux mêmes horaires que nous. Enfin bref, c'était dérangeant. C'est ça que ce que je voulais dire. Voilà. Alors, et tout ça pour dire que la marge de progression, elle existe et tout le monde s'y est attelé. Encore une fois, je pense que tout le monde conjugue les mêmes efforts. Alors, il y a longtemps que tout le monde s'est penché là-dessus. Mais il n'y a jamais eu en France de volonté de coordonner. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de quelques acteurs très importants, comme les grands groupes hôteliers, les compagnies aériennes françaises, bon, qui sont structurées, où il peut y avoir une décision commune et une volonté d'avancer unie, ce sont des milliers de commerçants, de gens qui sont en contact avec les touristes et qui n'ont pas vraiment été guidés en dépit de tous les efforts qui ont été conduits par les syndicats professionnels dans l'hôtellerie, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que vraiment l'attelage puisse fonctionner.
Alors justement, ça pose la question de comment sont mises en place ces mesures. On parlait de Do You Speak Tourist, de l'application Yes I Speak Tourist, qui aide les touristes à se repérer dans Paris selon les commerces ou les services qui parlent leur propre langue. Donc, comment on en arrive à générer ce type d'idée? Comment ça se met en place?
Alors, cette idée est née de la volonté du Comité Régional du Tourisme et de la Chambre de Commerce Paris pour proposer aux touristes sur aujourd'hui un téléphone que beaucoup ont dans la poche, un smartphone, pouvoir s'orienter, trouver les boutiques qui peuvent parler leur langue. Aujourd'hui, c'est en 9 langues interactives que les informations peuvent être communiquées. Ça, c'est côté touriste. Et côté commerçant, ce sont des petits livrets que nous distribuons qui donnent à la fois quelques éléments de langage dans la langue du pays, bon, 9 langues pour aujourd'hui, plus demain, et puis quelques tuyaux, je dirais, sur quels sont les horaires de un anglo-saxon va dîner plus tôt qu'un espagnol, quelles sont les attitudes à observer, un japonais restera, il y aura une distance entre les deux personnes beaucoup plus importante. Voyez, c'est un peu ça que pour essayer de mieux comprendre l'autre, mieux comprendre le touriste et le mettre plus à l'aise. Et puis, en même temps, lui faire comprendre que nous sommes là pour lui être agréable et puis pour vanter et lui vendre les produits français.
Tamara, lui, est-ce que ces mesures que M. Solignac vient de décliner, ça suffit à régler le problème de l'accueil?
Oui, mais en même temps, il faut quand même avoir le Wi-Fi partout. Ça, c'est primordial. Or, je pense que le Chinois aujourd'hui, c'est une communauté hyper connectée. Ils ont leur smartphone, ils ont leur tout le temps sur leurs réseaux sociaux. Même ils voyagent à l'étranger. Les jeunes d'aujourd'hui, ils demandent de pouvoir se connecter partout, à Wi-Fi ou à Internet, partout dans le monde. On peut constater qu'en France, même à Paris, le Wi-Fi n'est pas disponible partout. Ça, je pense que c'est quelque chose à améliorer avec vraiment un très très télé par le gouvernement.
Alors ça, c'est justement l'une des mesures, des 40 mesures annoncées par le Conseil de promotion du tourisme en juin dernier. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'objectif de la France était d'accueillir 100 millions de touristes étrangers par an d'ici à 2020. Jusqu'à maintenant, il y en a eu 83 millions en 2012. Et donc l'objectif, c'est aussi d'augmenter les revenus générés dans ce secteur. Et donc parmi ces mesures, il y a la couverture par très haut débit des principales zones touristiques et surtout la délivrance de visas en 48 heures pour certains pays, une mesure qui avait déjà été prise pour la Chine, entre autres la Russie, l'Inde, certains pays du Golfe. Ce sont des mesures tardives, ça, Tamara, lui? Du moins pour les touristes chinois.
Oui, il est tardif dans le sens que le télé, c'est une chose, mais en même temps, le demande, tous les justificatifs, tous les papiers, c'est quand même très strict. J'ai quand même rencontré beaucoup de cas, même les amis autour de moi. Il y a un mois, il me disait qu'il veut venir en France pour passer les vacances. Il y a deux jours, je le contactais, il dit non, je ne viendrai pas parce que mon visa a été refusé. Donc le cas de refus de visa est assez très fréquent en Chine par le gouvernement français. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font les Chinois, les touristes? Dans ce cas-là, ils contournent la France, c'est-à-dire qu'ils demandent visa par l'Allemagne, un peu plus facile, l'Italie, même la Grèce. Donc ils arrivaient dans ce pays-là, qui juste passait Paris par la France, comme un pays transit, qui passait de nuit, et puis ils vont ailleurs. Donc le problème des visas...
Ils vont où justement, Tamara Lui?
Très important. Ils vont très vite voyager dans le pays Benelux. Après 2 jours de visite à Paris, ils passaient à Pays-Bas, en Allemagne. Là, ils trouvent que l'accueil est beaucoup plus aimable par rapport à la France.
Et pourtant, le quotidien du tourisme a répertorié les villes par lesquelles étaient le plus attirés les touristes chinois, et la France est la première destination européenne, toujours.
Ah oui, bien sûr.
Après six destinations asiatiques.
Surtout les jeunes, quelle est la destination de rêve de leur vie? Ils peuvent les citer les trois, Australie, la France et Japon. Donc la France, c'est incontournable. Et que la Chine reste le premier émetteur de touristes en termes de nombre et en termes de recettes.
Pierre Joss, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Tamara Lui. Vous qui avez en plus un regard assez critique sur l'accueil à Paris, en Ile-de-France, est-ce que ces mesures dont on vient de parler avec Philippe Solignac, Do You Speak Tourist, ces mesures prises, est-ce que ça suffit à régler le problème de l'accueil à Paris?
Non, parce que on parlait tout à l'heure, Josette parlait des problèmes immatériels et des problèmes matériels. L'accueil psychologique est un problème immatériel, mais il y a aussi les problèmes. Je pense que la France, pendant trop longtemps, a vécu sur ses acquis. C'est-à-dire la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, ça se vendait tout seul. Donc il n'y avait pas besoin de mettre les éléments de transport, d'accueil, de facilité, puisque tout fonctionnait bien. De même, dans les zones les plus touristiques, pourquoi faire l'effort de sourire? Parce que de toute façon, le café, le restaurant sera toujours rempli. Donc on maintient la qualité de la nourriture à un essiage normal, et puis il n'y a pas besoin de sourire et d'être gentil avec les gens. De toute façon, c'est... Dès qu'un siège est libre, il est rempli, etc. Donc les choses ont changé, on parlait de concurrence tout à l'heure. Moi je pense que sur le plan matériel, on parlait des taxis par exemple. Bien, ben, il faut savoir que je serais moins pessimiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les taxis ont évolué, il y a toute une génération de jeunes, même depuis 20 ans, il y a des jeunes et qui ne correspondent pas du tout à leur père. P-A-I-R-E, comment dirais-je, des années 80, où c'était extrêmement corporatiste, où il y avait un numerus clausus des taxis sur Paris, donc l'offre était plus petite que la demande. Moi, j'ai vu des gens se mettre à genoux et prier des chauffeurs de taxi de les prendre. J'ai vu des gens se battre à Saint-Michel pour prendre le rare taxi qui était là, etc. Les choses ont changé. Mais l'image désastreuse du taxi arrogant, méchant, qui refuse des courses parce qu'elles sont trop petites, etc., cette image reste malheureusement, alors que la profession, heureusement d'ailleurs, a évolué. On parlait tout à l'heure des transports publics. C'est quand même incroyable que la ville qui reçoit le plus de touristes au monde, Paris, ville lumière, est le plus mauvais accès à un aéroport international comme Roissy. C'est-à-dire que il y a des touristes qui arrivent avec leurs valises, qui se retrouvent à Mitry-Mory.
Et c'est ça aussi, même... ça fait partie des 40 mesures annoncées par le ministre des Affaires étrangères. Un peu tardif.
Voilà. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas une ligne à grande vitesse, qu'on n'y ait pas pensé. C'est parce qu'on s'est reposé sur nos lauriers. Voilà, c'est clair. Même d'Orly, il n'y a pas de communication directe. C'est quand même insensé, quoi.
Et la France est à ce point, vous croyez, paralysée socialement, tel que l'écrivait ce journaliste britannique dans le Daily Telegraph que j'ai cité au début de l'émission? On a l'impression que les mesures prises via Do You Speak Tourist, via les ambassadeurs du sourire en 2010 par la mairie de Paris, que ces mesures sont là pour nous apprendre, les Français, les modalités de politesse de base. Est-ce que la France est à ce point paralysée socialement?
Je ne pense pas. Je voudrais répondre concernant le Wi-Fi, si vous permettez.
Le
comité régional du tourisme a lancé il y a peu un système de prêt avec caution, de location à l'aéroport, un petit appareil qui permet à un visiteur étranger qui n'a pas un abonnement téléphonique dans notre pays, quand nous sommes à l'étranger, nous sommes pénalisés, donc on peut comprendre tout à fait l'inverse. Et ça leur permet d'avoir une couverture débit, moyen débit, payant, oui.
Ah, c'est payant, c'est et payant. C'est très cher. C'est 8 euros par jour, c'est quand même pas donné, hein. 7 ou 8 euros, donc c'est... Enfin, moi, j'en ai parlé avec, justement, un certain nombre de touristes qui trouvent que c'est complètement scandaleux, quoi, de faire payer 8 euros par jour.
Je ne connaissais pas le prix, si vous voulez, mais c'est une alternative lorsqu'on reste 3-4 jours à acheter une carte de téléphone local pour mettre sur son propre téléphone, voyez-vous. D'autant que beaucoup de cafés, de restaurants, d'hôtels proposent gracieusement une couverture, une connexion Wi-Fi pour les clients et les visiteurs, quoi. Il y avait même, sous la mandature de Bertrand Delanoë, des bornes Wi-Fi dans tous les parcs et jardins. Oui, ça a été supprimé pour des raisons principes de précaution. Et voilà.
C'est-à-dire ?
principe de précaution, parce que certains pensent que les ondes dégagées par les bornes Wi-Fi peuvent être nocives. De la même façon, les bornes, les relais pour les téléphones, certaines ont été supprimées à proximité des écoles. Voilà.
Parmi les mesures qu'a évoqué le ministère des Affaires étrangères, alors il y a eu ces mesures-là exposées, 40 mesures annoncées par le Conseil de promotion du tourisme en juin dernier. Puis avant ça, en fin 2014, il y a cette idée des contrats de génération passés avec plusieurs régions. Donc là, on sort de la sphère parisienne et francilienne. Et l'objectif de ces contrats, c'est de créer une marque autour de régions choisies pour attirer les touristes hors de la capitale. Et, est-ce que la création d'une marque, est-ce que cet outil marketing, c'est vraiment une bonne stratégie pour attirer des touristes étrangers ? Josette Sixique.
Je crois que vous avez dit d'abord contrat de génération et c'est contrat de destination.
De destination.
C'est quand même pas du tout la même chose. Bon, ça encore, c'est une ancienne hein, dans ce secteur. L'idée de la marque, la France est-elle une marque ? N'en est-elle pas ? C'est une marque ombrelle sous laquelle on va abriter les marques régionales, puis les marques locales, etc. Bon, moi j'ai rien contre hein, les contrats de destination, c'est plutôt bien, mais seulement.
Est-ce que le fait de présenter la France comme une marque, ça peut la desservir auprès de touristes ?
Non, ça va pas la desservir. Tous les pays, New York est une marque, Montréal est une marque. On fait du marketing hein, quand on veut faire venir des touristes. Non, mais ça dépend ce que vous entendez par marque. Mais on est quand même sensible avant tout à effectivement une image. Et quand l'image a été bien marketée, ça peut très bien marcher. Donc il n'y a pas de raison que la France n'utilise pas cet outil. Cela dit, pour les contrats de destination, j'ai regardé. Moi, je trouve ça bien, hein, plutôt que d'avoir de ne pas obéir à des logiques administratives, mais obéir à des logiques de territoire touristique. Mais après, il va falloir voir ce qu'on va en faire, quoi. C'est le Grand Paris, ça sera une destination. Que va-t-on faire de cette destination ? Comment va-t-on la marketer ? Que va-t-on y mettre dedans, etc.
Pierre Josse, à ce propos, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces contrats de destination ?
De toute façon, il faut taper partout, faut tout tenter effectivement pour redresser cette image et puis détruire les préjugés et les idées toutes faites et les idées même erronées hein, sur l'accueil français, parce qu'il faut pas non plus être catastrophique hein. Il y a des départements français, il y a des régions françaises qui ont une très très bonne image et le bouche à oreille est merveilleux. Moi, j'ai travaillé il y a pas longtemps dans la Sarthe et je discutais avec un camping qui était en bord de Loire, et il me dit, j'ai la moitié de mes clients qui sont norvégiens. Je dis, attends, au fin fond de la Sarthe, des Norvégiens débarquent, et en plus des cyclistes. Il me dit, parce que il y a une famille qui est venue il y a 10 ans dans mon camping, qui a été tellement bien reçue, qu'elle est rentrée au pays, le village, et ensuite la région dit, il y a tel camping près de Sablé, il y a tel camping qui reçoit magnifiquement, donc il y a des cohortes de... C'est une bonne leçon pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, les gens répercutent la qualité de l'hospitalité, la qualité de l'accueil qu'ils reçoivent. Donc, conjugué avec des mesures techniques, bon, pourquoi pas. Mais les deux doivent se faire ensemble.
Josette Sixique.
Oui, moi je voudrais encore revenir sur cette mauvaise image hein, que nous avons. Récemment, une étude a été faite par la ville de Paris et BVA, qu'on peut consulter sur le site de l'Office du tourisme de Paris. On est quand même à 85-86%, voire 90% de taux de satisfaction sur quasiment tous les items sur Paris. Donc, le gros problème, à mon avis, c'est le problème de l'image. Ces clichés négatifs ont été véhiculés pendant des années et des années. Les choses ont grandement changé quand même aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de faire une étude en 2009, je crois, sur l'accueil à Paris. Encore pareil, on dit, tiens, comment se fait-il qu'on soit mal noté en termes d'accueil ? Donc, je me suis dit, j'ai proposé à l'Office du tourisme d'aller enquêter véritablement auprès des touristes. Donc, on a enquêté auprès de touristes internationaux dans leur langue. C'était pas du questionnaire, hein, c'était des entretiens en face-face qualitatifs, donc avec des histoires de vie, etc. On a enquêté auprès de touristes d'affaires, de touristes d'agrément et de Français. Et écoutez, le résultat, c'est quand même que finalement, les étrangers étaient très étonnés
que les Français, que les Parisiens en particulier, soient aussi aimables alors qu'on leur avait dit le contraire. Ils étaient plutôt agréablement surpris. Les principales critiques venaient plutôt des Français. Hein. Les régions françaises, elles sont quand même très critiques et agressives vis-à-vis de Paris. Et on a aussi interrogé, c'est ce que je voulais dire et qui est quand même très intéressant, les Parisiens vis-à-vis des touristes. Et on les a interrogés dans des quartiers très touristiques, pas touristiques et moyennement touristiques. Dans les quartiers moyennement et pas touristiques, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont pu dire de joli sur les touristes.
Quoi, par
exemple ? Il n'y avait aucune animosité, il n'y avait aucune...
Quel genre de choses ?
Ils détendent l'atmosphère, ça valorise notre ville, c'est le monde qui vient à nous, ça donne un air de vacances. Ça, j'ai trouvé ça très très joli, cette idée de ça donne un air de vacances. Effectivement, moi aussi, j'adore voir des gens qui se baladent avec des valises tout le temps. En revanche, donc ça, c'était les quartiers peu touristiques. En revanche, dans les quartiers saturés, il y en a 4 ou 5, et puis après, vous reprenez la Côte d'Azur, les stations de ski, etc. Dès que vous avez un problème de saturation, effectivement, les riverains sont gênés par les touristes. La petite rue, le pic, le trottoir est minuscule. Quand vous avez 3000 touristes qui débarquent, c'est difficile de circuler. Donc là, il n'y avait aucune xénophobie de la part des Parisiens, hein. Mais c'était simplement, bon, ils nous gênent, donc que fait la municipalité pour essayer de gérer les flux, quoi. En gros, c'était ce type de problème. Donc, vous voyez, faut pas tomber dans la caricature, quoi. Moi, je me bats depuis toute ma carrière, je me suis battue pour qu'on soit dans la nuance et qu'on évite, justement, les raccourcis.
France Culture. Du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Donc faire la guerre aux préjugés et puis se confronter aux chiffres, parce que la France reste quand même la première destination touristique mondiale devant les États-Unis avec 84 millions de visiteurs, et ça c'est le cas depuis une trentaine d'années. Et Paris reste la troisième ville la plus visitée au monde derrière Londres et Bangkok selon l'index Global Destination Cities. Le secteur touristique est même aussi le seul en ce moment à ne pas faiblir en termes d'emploi, en tout cas celui à moins souffrir. Mais depuis un an, le nombre de touristes est resté stable en France, du jamais vu. Ça, vous n'êtes pas d'accord, Josette Sixique.
Bon, je crois que vous êtes monsieur Solignac et comme moi.
Ça, c'est un rapport du Quai d'Orsay.
La comparaison avec Londres, le périmètre n'est pas le même.
Voilà, exactement.
Paris et le Grand Londres n'ont pas le même périmètre. Et en nombre de visiteurs, je pense que la destination Paris fait venir plus de visiteurs étrangers. Bon, mais non, ça,
enfin,
c'est un...
On n'en est pas là, je crois que c'est pas détail, le problème.
En tout cas, cette stagnation...
Les 85 millions de touristes qui arrivent en France, bon, c'est une tarte à la crème, tout le monde le sait, dans le milieu professionnel, il n'y a pas 85 millions de touristes qui viennent en France. On compte les touristes quand ils passent,
un touriste allemand... Ils traversent le pays.
Ils passent la frontière à l'aller et au retour, on va le comptabiliser.
Ça, ce sont les chiffres donnés par le Quai d'Orsay.
Donc, on essaie
rapport
de
avec
défendre
leur
une politique
voilà.
Et un budget en annonçant des chiffres faramineux, la réalité est tout autre et aujourd'hui tout le monde le sait. Enfin, la presse grand public s'est emparée du sujet et a commencé un petit peu à se battre contre cette espèce d'extravagance de chiffres. Donc disons qu'on est sans doute à la moitié à peu près, mais c'est ce qui explique qu'en termes de recettes, évidemment, un touriste qui passe, il va dépenser beaucoup moins qu'un touriste qui va séjourner au Baléares pendant une semaine.
En tout cas, qu'on peut dire que le nombre de touristes n'a pas augmenté depuis un an, est-ce que ça vous êtes d'accord ?
Il n'y a rien de plus difficile que de compter un touriste. Donc, dès qu'il... Bah oui, parce qu'un touriste, ça bouge. Et à l'intérieur du territoire européen, en plus, il n'y a plus de frontières. En plus, il y a une monnaie unique. Donc, vous voyez un petit peu les difficultés que ça crée. Et les statisticiens eux-mêmes considèrent qu'on n'a pas les outils statistiques suffisants aujourd'hui pour pouvoir étudier les déplacements touristiques aux touristes près. En plus, faites attention, vous parlez de touristes internationaux. Il faut quand même jamais... C'est ce qui est comptabilisé, hein, dans les 85 millions. Faut pas oublier qu'on a un tourisme national. Et
national.
Celui-là est quand même extrêmement intéressant. Et on fait partie des pays dans lesquels 80% de la population, grosso modo, reste en France, hein, à l'intérieur des frontières, où elle consomme aussi des prestations touristiques.
Bon, en tout cas, en termes de rang, la France n'est pas la première en termes de recettes. Là, on est tous d'accord.
Ah, d'accord.
La CCI, j'imagine, regarde, et vous y avez fait allusion au début de l'émission, Monsieur Solignac, la CCI donc regarde les initiatives de ses voisins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour attirer encore des touristes, pour les faire rester, en tout cas, plus longtemps en France ?
Nous avons des touristes, nous n'en avons pas encore parlé, nous avons une activité congrès-salon qui est très importante, congrès professionnel. en France, dans plusieurs grandes villes.
Qui représente quoi en termes
alors,
de...
Alors, au lieu de vous donner un chiffre, je vais vous donner une comparaison. Pour l'Île-de-France, les retombées économiques de l'activité congrès et salon représentent autant que les retombées économiques de Jeux olympiques. Or, pour avoir les Jeux olympiques, il faut pendant 15 ans ou 18 ans travailler, se mobiliser. Et là, moi, je parle de retombées économiques chaque année pour les congrès et salons. Et ça, c'est une des actions que la Chambre de commerce a depuis longtemps mis en œuvre pour moderniser les équipements, que ce soit Paris-Nord-Villepinte, le Palais des Congrès, bon, Porte de Versailles. Bon, parce que ça, c'est vraiment, non seulement important, on vient de voir, mais c'est délocalisable. On ne délocalisera pas les emplois liés au tourisme culturel pour le Louvre, Notre-Dame, le château de Versailles, mais concernant les congrès et salons, les organisateurs peuvent demain aller à Francfort, à Milan, à Barcelone, à Bangkok éventuellement, voilà. Et ça, c'est une activité à laquelle la Chambre de commerce est très attachée. Vous parliez tout à l'heure de contrat de génération.
le lapsus est contagieux, apparemment.
Oui, c'est contagieux. De contrat de destination. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est lié aussi aux marques ombrelles dont vous avez parlé, madame. Parce que il y a des noms qui sont connus à l'étranger. Vous voyez, Île-de-France, c'est totalement inconnu à l'étranger. Paris, c'est le troisième nom le plus connu après une grande marque de soda dont vous devinez le nom et une grande marque de chaussures de sport. Voilà. Paris est le troisième nom, la marque commerciale la plus connue. Et ces marques ombrelles font que aujourd'hui dans le monde, on connaîtra la Normandie, bon, pour des raisons historiques. La Champagne pour des raisons gastronomiques, culinaires, vin, la région de Bordeaux.
Bon, c'est voilà. Ce sur quoi sont basés ces contrats.
Exactement. Parce que ces noms sont connus, ou alors s'ils ne sont pas liés à la gastronomie, ça évoque un peu le rêve, la French Riviera. Bon, on n'utilise pas c'est une expression comme ça en France, mais la Riviera, c'est quelque chose qui fait rêver nos visiteurs. Et parmi les mesures, moi je voudrais parler un peu de ce qui est mis en place, en tout cas pour arriver à améliorer notre accueil, qui encore une fois n'est pas si mauvais que ça, et je vous rejoins tout à fait, si on est parti de loin, nous sommes partis de loin, il y a des gros progrès qui ont été faits. Mais à côté de contrats de destination, de modernisation d'équipements pour les congrès-salons, je vois l'Office de tourisme de Paris a mis au point un City Pass où le touriste peut réserver à l'avance sur Internet et acheter. Alors, le CRT a même ouvert des bureaux dans les aéroports ou aux Galeries Lafayette ou à Disney, mais ils ont ouvert un dernier bureau dans la zone de livraison des bagages à Charles de Gaulle, Roissy. Ce qui est assez malin parce que pendant qu'on attend, on peut acheter le pass qu'on a réservé qui permet d'avoir un titre de transport pour le nombre de jours que l'on reste et puis les accès au musée où on veut aller ou au château de
Versailles. Là, c'est une mesure de visibilité, d'accessibilité, pas forcément d'accueil à proprement parler.
Parce que ça facilite. On facilite la circulation. On a parlé d'Do You Speak Tourist. Le Conseil économique et social régional Île-de-France travaille aujourd'hui, doit faire des propositions pour la nouvelle chambre de région Île-de-France qui va être élue à la fin de l'année. Tout le monde attend des mesures pratiques pour pouvoir améliorer l'accueil. On parlait tout à l'heure de visa. Nous souhaitons qu'il y ait une procédure similaire à celle qui est utilisée aux États-Unis où sur Internet, vous commandez votre ESTA. Vous avez le titre. Bon, on parlait des taxis tout à l'heure. Il y a eu un gros progrès de fait, assez récemment aussi, parce que la concurrence pousse tout le monde à se remettre en cause, il faut le dire, même si on peut ne pas partager la concurrence qui existe avec les taxis. Mais je pense que tout le monde est mobilisé aujourd'hui pour essayer d'améliorer.
Tamara, lui, est-ce que cette image de marque qu'on tente de construire, politique, touristique, après politique touristique, autour de Paris, de l'Île-de-France et de la France, est-ce que ça prend toujours ça auprès des touristes chinois ?
Oui, je pense bien sûr c'est une très bonne idée, d'autant plus que aujourd'hui il y a plus de moitié des touristes chinois en France. Ce sont pas leur première visite, c'est-à-dire c'est leur deuxième ou troisième visite. Donc ils vont pas rester seulement à Paris. Ni en Île-de-France, ils vont voyager plus un peu plus loin, descendre vers le sud. Donc tout à l'heure, vous avez cité Nice, Riviera, mais il y a la Provence, il y a la Vendée, il y a le côté romantique.
Pardon. Oui, d'ailleurs, il y a eu un article récemment sur ce patron d'entreprise qui a emmené plus de 6000 de ses salariés entre Paris et Nice.
Nice. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est
pour les récompenser de leur travail.
Maintenant, le voyage de luxe, c'est non seulement le voyage n'est pas seulement rester à Paris, venir en France, c'est-à-dire que descendre dans le sud. Dans le sud, ça peut être à Bordeaux, à l'est, voire jusqu'en Normandie. Il y a tout ça à promouvoir. Je pense que la France est tellement riche, il n'y a pas que Paris. C'est dommage, heureusement. Mais il y a quand même il y a des progrès à faire, c'est-à-dire il y a quand même une base interculturelle à communiquer et à apprendre par les gens qui accueillent les touristes. Je pense que ce sont des bases, des techniques de l'accueil.
Et qui ne sont pas assez développées à l'heure d'aujourd'hui, Tamara, lui ?
Oui, par exemple, je ne sais pas moi, en Provence, récemment, un touriste m'a dit qu'il est en Provence, qui n'est pas très loin, qui est à Charente-Maritime, qui est tombé dans un hôtel 3 étoiles. Elle a du mal à trouver dans tout l'hôtel une bouilloire pour faire de l'eau chaude. Tout simplement. Donc, alors, un hôtel des 3 étoiles en Provence, est-ce qu'il est équipé les minimums, je ne parle pas des grands services de table, mais au moins des choses minimums pour que le séjour qui soit un peu plus créable, un peu plus facile. Donc, ces genres de détails, je pense qu'on peut prêter un peu plus d'attention pour améliorer notre service. Ça ne demande pas grand-chose. Donc, ces genres de culture interculturelle, de connaissances interculturelles, ça prend pas beaucoup de temps à apprendre, qu'ils soient des Japonais, Chinois, Russes ou d'autres pays de l'Est. Il suffit que les personnes d'accueil qui feuillent un peu les livres, d'avoir un fascicule sous les mains, apprennent les différents accueils, des souris, des gestes envers les touristes du monde entier. Je pense que ça améliorerait beaucoup l'image de la France.
Une dernière question pour vous, Pierre Josse. Est-ce que les mesures plutôt didactiques envers les commerçants, les professionnels du tourisme peuvent encore suffire à l'heure d'aujourd'hui ?
Non, je pense à je sais pas, vous vous rappelez, il y avait une campagne des cafetiers. Il y a 7 ou 8 ans de ça, des pleines pages dans tous les hebdos sur le café, le sourire dans les cafés, l'amabilité dans les cafés, etc. Et moi, ça m'a fait bien rigoler parce qu'il y avait un tel décalage entre certains cafés parisiens, des hauts lieux touristiques où on se fout complètement d'ailleurs de la qualité de la relation avec on joue sur le passage, etc., etc. Il y avait un tel décalage. Moi, je pense que ce décalage, il est en train de se réduire. Il faut pas se donner bonne conscience. Je parle aux organismes officiels en faisant des campagnes aussi brillantes et aussi graphiques soient-elles. Il faut que ça s'accompagne aussi. Je veux dire, je pense par exemple aussi la police. Bon, on a une police qui n'est pas réputée être très tendre, très ouverte, très souriante par rapport aux étrangers. Il y a beaucoup d'arrestations qui se font aux faciès. Il se passe pas une semaine sans qu'un prof, un grand universitaire africain, se fasse arrêter gare du Nord tout simplement parce qu'il est noir, quoi. Ça suffit pas de mettre des affiches dans les commissariats de police en disant il faut bien recevoir les gens aussi. Il faut aussi qu'il y ait une éducation. Il faut aussi qu'il y ait des cours, qu'il y ait une pratique qui soit mise en place et qui soit intégrée par l'ensemble du corps. Voilà. Donc, lorsque ces campagnes qui sont utiles s'accompagnent également d'un effort de la plupart des corporations, et même sur le plan technique, je pense la fameuse petite lumière verte sur les taxis, par exemple, que moi j'attends depuis 40 ans, qui était une évidence pour montrer qu'il est libre, alors qu'à Tokyo ou partout ailleurs, c'est déjà fait. Là, ça y est, depuis 2-3 ans, ça facilite quand même la signalétique dans les aéroports, la signalétique dans pas mal d'endroits. Gagne à être amélioré, effectivement, et c'est des choses auxquelles il faut penser.
Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Saurons-nous un jour sourire à nos touristes ? C'est la question à laquelle nous n'avons toujours pas fini de répondre avec nos 4 invités, Josette Sixic, sociologue, Pierre Josse, rédacteur en chef du Guide du Routard, Philippe Solignac, président de la CCI de Paris, et enfin la journaliste Tamara, lui, au téléphone. Merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur le site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Vous pouvez également y laisser vos commentaires. On communique aussi sur Twitter. Très bonne fin de semaine à tous et à lundi.